Chapitre 20. Le druide noir. Les rangées de Tuatha'n étaient encore alignées sur le haut de la longue colline. Mal'den avait demandé aux guerriers de tous les clans de rester aussi longtemps que possible en haut de Sablon, au-dessus de l'ennemi. Le chef des tribus avait lui-même peint le buste des 6 autres chefs de clan. Ils avaient dormi dans la même tente et parlaient tard dans la nuit. Tous les guerriers du Cid étaient là. Seul manquait le fils de Sarkhan et ceux qui l'avaient suivi. Les Tuatha'n savaient que cette bataille serait la plus importante de toutes, et sans doute la plus meurtrière. L'épée de Tagore allait leur manquer, comme leur manquait celle de son père. Toute la nuit, ils invoquèrent la Moïra, et à présent qu'ils voyaient les vastes colonnes de leurs ennemis, ils se mirent à espérer qu'elle les avait entendues. En bas, les marécages ralentissaient hommes et chevaux. Mais l'armée d'Harcourt avançait toujours, silencieuse et droite. C'était un cortège colossal qui était arrivé en cône devant la colline et s'éparpillait maintenant tout autour pour attaquer sur tous les fronts. En première ligne, les archers, qui ne portaient qu'une simple tunique et des haumes plus légers, s'apprêtaient bientôt à envoyer une première salve de flèches vers le haut de la colline. Ils voulaient obliger les Tuatha'n à bouger, à descendre vers eux et à quitter leur poste défensif. En deuxième ligne se trouvaient les fantassins, les plus nombreux. Ils portaient des cottes de mailles épaisses sur leurs gambisons rembourrés, des cubitières, des genouillères, des chausses et des gantelets. Leurs épées étaient encore à leur ceinture, car le général d'Ancret avait ordonné qu'on utilise au début du combat que les grandes piques, plus efficaces pour partir à l'assaut d'un ennemi perché. En troisième ligne, enfin, venaient les chevaliers en armure de plate complète. Sous leur haume conique à nasal descendait une gorgerette de mailles qui ne laissait aucune brèche aux lames ennemies. Armés de lances, d'épées et de masses d'armes, ils retenaient pour l'instant leurs puissants chevaux, protégés eux aussi par des pièces d'armure. Au milieu de l'après-midi, soudain, toutes les troupes d'Harcourt s'immobilisèrent d'un seul coup. La première ligne des archers avait déjà gravi les 2/3 de la colline. Ils n'étaient plus qu'à quelques foulées de cheval quand ils posèrent un genou par terre et armèrent leurs arcs en les levant vers le ciel. Les archers Tuatha'n se préparèrent à leur tour. Du sommet de la colline, ils avaient un meilleur angle d'attaque. Un alignement d'arcs s'éleva à l'avant des tribus. Le temps sembla s'arrêter. Le bruit des pas, le choc des armures avait cessé. La colline de Sablon était plongée dans un silence pesant. C'étaient les instants lourds et graves qui précèdent la bataille. Ceux où commencent les regrets. Ceux où battent des milliers de cœurs, de peur et d'excitation mélangées. Où l'appréhension noue le ventre. Où elle se fait si oppressante qu'on n'a plus qu'une seule envie, se jeter dans le combat pour en finir. Pour se débarrasser de cette tension continue, suffocante. Ces instants où l'on repense aux années écoulées, aux tendres souvenirs. Où l'on cherche à deviner si l'autre, juste à côté, ressent la même angoisse. S'il se demande aussi si cette cause mérite que l'on meure, ou l'on s'inquiète de savoir quand tombera la flèche, quand s'abattra l'épée. Ces instants sourds, où l'on n'entend plus rien que le sang qui bat dans ses veines, comme s'il y pulsait pour la dernière fois. D'Ancret donna le premier l'ordre de tirer. Toutes les cordes fouettèrent l'air en un seul battement. Les flèches des soldats de la flamme s'élevèrent dans le ciel comme une nuée d'oiseaux. Les Tuatha'n répliquèrent aussitôt. Les deux courses se chevauchèrent dans un balai gracieux. Puis on entendit le sifflement des pointes qui retombaient. Les boucliers s'élevèrent dans les deux armées, mais les flèches parvinrent tout de même à toucher plusieurs hommes, chez les Harcourtois comme chez les Tuatha'n. La première salve avait été parfaitement accordée, et tous les traits tombèrent en même temps, mais bientôt les archers armèrent de nouveau. Et cette fois-ci, les flèches s'envolèrent les unes après les autres, sans aucun agencement, comme une pluie continue qui obligeait les fantassins et les chevaliers à se protéger sans arrêt. Lors, D'Ancret donna l'ordre aux premières lignes d'avancer. Il voulait profiter de la confusion causée par les archers pour remonter vers l'ennemi et rompre ses rangs. Aussitôt, une pluie de projectiles tomba du haut de la colline. Les Tuatha'n avaient préparé ce moment et se dressèrent en criant pour envoyer en bas de la pente des pierres, des rochers et des haches qui mirent à mal l'ordonnance parfaite des lignes d'infanterie de l'Harcourt. L'averse meurtrière mit les fantassins en déroute. Ils s'éparpillèrent, pris de panique, et nombreux furent ceux qui moururent écrasés. La première ligne des Tuatanes fit quelques pas en avant pour accueillir les survivants essoufflés à coups de hache. L'infanterie des soldats de la flamme battit en retraite pour essayer de se reformer un peu plus bas, avant de donner un nouvel assaut. Malgré les ordres de Malden, quelques Tuatanes quittèrent alors le haut de la colline pour pourchasser les fuyards. C'était bien sûr une grossière erreur, que Sarkhan n'aurait jamais permise, mais Malden était un chef encore jeune, et il ne sut retenir ses guerriers déchaînés qui espéraient décimer très vite ses troupeaux de lâches. Ils furent accueillis par un détachement de la cavalerie qui les massacra en un seul instant. Dankrai comprit alors qu'il fallait profiter au plus vite de la brèche qui venait de s'ouvrir dans la ligne Tuatane, avant que ceux-ci n'aient le temps de la combler, en espaçant davantage les troupes de front. Il donna l'ordre à l'infanterie, bien que réduite, de remonter à l'assaut par le flanc ouest de la colline, là où les guerriers du Cid avaient laissé une ouverture. Les fantassins se précipitèrent, suivis de près par la cavalerie. Malden, au sommet de la colline, vit que l'armée arcourtoise risquait de passer à travers ses lignes. Il cria à ses hommes de partir sur le flanc ouest, mais ils arrivèrent trop tard, et la bataille s'engagea tout en haut de la pente. Les flèches s'arrêtèrent de pleuvoir à cet endroit précis où commencèrent les combats rapprochés. Les soldats de la flamme furent surpris par l'agilité des Tuatanes dans le maniement de l'épée, comme dans celui de la hache. De nombreux hommes tombèrent d'un côté comme de l'autre, dans un balai de sang, mais l'armée de Dankrai n'en finissait pas d'accourir, si bien que les Tuatanes se trouvèrent vite dépassés. Les Arcourtois arrivaient en surnombre, et ils parvinrent assez vite à briser la défense Tuatane, agrandissant l'ouverture sur ce flanc de la colline. Les hommes du Cid ne profiteraient bientôt plus de leur position haute. Le massacre commença. Ils descendirent lentement les grandes marches de pierre de l'escalier du grand degré et arrivèrent devant le cloître. La lune éclairait le grand jardin entouré d'une galerie d'arcades, couverte par une toiture de bois. On devinait dans l'ombre une double colonnade en quinconce. Aléa s'avança la première sous les arcades en calcaire, découvrant les sculptures précises des écoinçons peints entre les colonnes. Elle s'attendait à voir surgir un garde de derrière chaque pilier, comme la nuit dessinait des ombres étranges à travers toute la galerie. Elle fit signe à ses compagnons de la rejoindre. Ils étaient ébahis par ce spectacle. Vers l'ouest, une large baie ouvrait la galerie, si bien que le jardin au centre du cloître semblait flotter entre ciel et terre.
« Où devons-nous aller ?»
chuchota Aléa en se retournant vers Faïs.
« Je crois me souvenir que le réfectoire, qui est au bout de cette allée, donne sur le scriptorium en dessous. Mais je ne suis pas sûre. »
Aléa acquiesça. Essayant de rester le plus souvent possible cachée derrière les grandes colonnes, elle avança le long de la galerie, lançant des regards dans l'allée et vers le jardin. Elle arriva enfin devant la porte que la barde avait indiquée. Le réfectoire était fermé, lui aussi. Aléa se dépêcha de crocheter la serrure et laissa entrer Mjoln, Faith et Kathleen pour refermer la porte derrière eux. C'était une immense salle rectangulaire, couverte d'une voûte en berceau lambrissé. La lumière blafarde de la nuit entrait par les fenêtres étroites qui perçaient les hauts murs au nord et au sud. Chacune de ces petites ouvertures était encadrée d'un arc, supporté par deux petites colonnes. De grandes tables de bois étaient alignées au centre de la pièce, bordées de bancs austères. Moines et étudiants se retrouvaient ici pour manger. Aléa se dit que, s'il devait repartir par là, il faudrait le faire avant l'heure à laquelle les habitants de l'abbaye venaient prendre leur petit déjeuner. Faye s'indiqua une porte vers l'ouest. Ils traversèrent la grande salle en essayant de faire le moins de bruit possible. Chaque faux mouvement résonnait dans cet immense espace froid. Aléa poussa la poignée de la porte. Elle n'était pas fermée. Elle découvrit alors un escalier qui descendait vers l'ouest et s'engagea la première. Ils arrivèrent groupés au second étage de la merveille, devant une double porte en bois. Aléa eut plus de peine à l'ouvrir, car il y avait deux serrures et leur mécanisme était plus compliqué. Mais elle n'avait pas oublié les petits gestes précis qu'elle avait tant pratiqués dans son enfance, et parvint enfin à ouvrir le scriptorium. La pièce, profonde, était séparée par trois rangées de colonnes en quatre nefs de tailles inégales. Une faible lumière filtrait par deux baies rondes placées en hauteur. Des tapisseries colorées, pendues entre les colonnes, quadrillaient l'espace au centre du scriptorium pour diviser la pièce en petites salles calfeutrées où étudiants et moines pouvaient étudier, mais aussi copier et enluminer les manuscrits. Aléa descendit les quatre marches. Émerveillée, elle leva les yeux vers les étagères de bois qui se superposaient tout au long des quatre murs. Il y avait là encore plus de livres que dans le monastère où il s'était arrêté. Beaucoup plus. Plusieurs échelles étaient disposées çà et là pour permettre d'accéder aux rayonnages les plus hauts. Les manuscrits s'entassaient, reliés ou non, partout dans la salle. C'était, à n'en pas douter, la plus grande bibliothèque de Gaelia. Aussi splendide que la décrivaient les contes des bardes. La bibliothèque du Mont Tombe. Tout le savoir du monde. Faith arriva derrière la jeune fille et poussa un soupir d'admiration. C'est magnifique, n'est-ce pas? Aléa ne répondit même pas. Bouche bée, elle tournait sur elle-même, les yeux levés vers les rangées infinies de livres. Bjoln et Kathleen entrèrent à leur tour dans la salle, tout aussi émerveillés.
Comment veux-tu que l'on trouve ce que tu cherches parmi ces milliers de volumes?
Désespéra Mjoln en s'approchant d'Aléa.
Et qu'est-ce qu'on cherche exactement d'ailleurs, hein?
L'encyclopédie d'Anali, chuchota Aléa. Elle s'approcha d'un pupitre, prit une plume et dessina maladroitement les cinq lettres sur un vieux parchemin taché. Anali. Quand le moine lui avait montré la forme des lettres de l'alphabet dans le monastère, elle avait fait attention à mémoriser celles-là. Elle ne les avait jamais oubliées. Elle prit le parchemin et le montra fièrement au nain. « Anali, » répéta-t-elle. « Je crois que cela s'écrit comme ça. N'est-ce pas, Faith ?» La barde acquiesça. « Allons, dépêchons-nous, » ajouta la jeune fille en reposant le parchemin sur le pupitre. « Il y a peut-être un catalogue ?» suggéra Faith. Elle avança vers une étagère et vit qu'il n'y avait aucun numéro, ni sur les ouvrages, ni sur la tranche des étagères. « Non, » dit-elle en soupirant, « j'ai bien l'impression qu'on va avoir du mal à retrouver cette encyclopédie. Mais elle ne peut se trouver qu'en trois endroits, si la bibliothèque est bien classée. Soit avec les livres d'histoire, soit avec les encyclopédies, soit avec tous les ouvrages qui concernent la Moira et les druides. Kathleen, essayons déjà de repérer le classement. Nous pourrons alors réduire le nombre de volumes à vérifier. » Les deux femmes se mirent au travail. Soudain, alors que tout semblait perdu, Malden entendit le bruit tonitruant d'une énorme explosion sur le flanc nord de la colline, là où l'armée arcourtoise avait fait irruption. Dans un magma de flammes et de poussière, des dizaines de corps furent projetés en l'air, et Malden vit à leur armure que c'était des Harcourtois. Le vacarme et le feu semèrent la panique dans les troupes de Dankrai, qui battirent en retraite. Malden sauta sur son cheval et partit au galop au bord de la colline pour voir ce qui se passait. Il découvrit alors, arrivant par l'est, le groupe serré des druides, vêtus de leurs longues robes blanches, précédés par des magistèles qui prenaient déjà l'ennemi à revers. Les Tuatan reprirent courage en voyant arriver les hommes de Saïmina, restèrent quelques instants stupéfaits par les boules de feu qui tombaient sur l'armée d'Harcourt et par les éclairs que les druides envoyaient devant eux, puis repartirent au combat, dévalant la colline pour prendre en étau les soldats de la flamme. Au loin, en retrait de la troisième ligne, Dankrai fulmina. Ses chevaliers étaient complètement dépassés par cette attaque surprise et ne pouvaient se défendre contre le feu qui venait du ciel. Les chevaux prenaient peur, faisant souvent tomber leurs cavaliers qui mouraient aussitôt sous l'attaque brutale des magistèles déployés sur tout le flanc est. Il ordonna alors aux archers de se regrouper en deux colonnes au-delà de la colline. Pendant le temps qu'il leur fallut pour s'installer, les hommes du comte Alroeg tombèrent par dizaines, brûlés, foudroyés, écrasés ou éventrés. Les archers arcourtois envoyèrent une première salve. Les flèches retombèrent par milliers sur les nouveaux arrivants. quelques magistèles périrent, ainsi que plusieurs druides, mais aucun des quatre membres du conseil qui avait pris la précaution de rester en retrait. Une deuxième salve s'envola, mais alors qu'elle commençait à redescendre, elle fut déviée cette fois par une force invisible, comme un mur transparent qui flottait dans les airs au-dessus des druides. Dès lors, l'attaque des magistèles reprit de plus belle. Dancret vit alors ses troupes, qui commençaient à reculer. Il hurla de rage. Son armée était tellement plus nombreuse, ce n'était pas possible. Les Touatan, eux, avaient repris leur progression, faisant danser leurs haches et leurs épées autour d'eux. Ils s'infiltraient entre les lignes de fantassins et seraient bientôt à portée de la cavalerie. Le combat était de plus en plus désordonné et de plus en plus sanglant. Quelques instants plus tard, alors que Dancret s'imaginait déjà vaincu, il vit apparaître au sud une nouvelle colonne de soldats. L'un de ses hommes arriva au galop au même instant.
« Mériande de Terre Brune arrive avec plus de 8000 hommes, général! Nous sommes sauvés !»
Le stratège Arcourtois retrouva le sourire.
« Fort bien. Partez dire à Mériandre d'attaquer par le flanc est. S'ils peuvent nous débarrasser des magistèles, je pense que nous pourrons reprendre le dessus sur les Touatan. » « Bien, général. Mais les druides ?»«
Les druides, » répéta Dancret en serrant les dents. Nous ne pourrons nous occuper des druides que quand la ligne des magistèles sera tombée. Pour le moment, nous ne pouvons que nous défendre. Mais si nous parvenons au contact, ils ne pourront plus utiliser leurs boules enflammées, ils risqueraient de décimer leur propre ligne.
Le messager acquiesça et repartit au galop dans l'autre sens. Dans la plaine de Sablon, l'hécatombe continuait. Les archers arcourtois avaient abandonné leur assaut inutile et avaient sorti leurs épées pour courir affronter au nom du Christ l'armée de barbares qui dévalait encore les pentes vertes comme une coulée de lave. Les cavaliers tournaient autour des lignes ennemies, essayant de passer au travers, mais les Touatan sautaient sur la croupe des chevaux pour les faire tomber au sol, où tout se terminait dans un bain de boue et de sang. Dancret entendait le cri de ses hommes. « Par la croix du Christ !» hurlait-il en fonçant droit sur l'ennemi. Mais plusieurs milliers étaient déjà morts, et le général se demanda s'il pourrait tenir jusqu'à l'arrivée des Brunois. Au même moment, il entendit des cris derrière lui, au nord. Il se retourna aussitôt et vit plusieurs de ses hommes qui arrivaient au galop. Ils venaient du camp qui avait été installé la veille en retrait, et la panique se lisait dans leurs yeux. Dancret se mit en route pour les arrêter.
« Que se passe-t-il »
demanda-t-il furieux.
« Pourquoi abandonnez-vous le camp ?»
Les hommes s'arrêtèrent dès qu'ils reconnurent le général.
« Une armée vient du nord !»
halta l'un d'eux en descendant de cheval.
« Une armée ? Du nord ? La reine aurait-elle finalement changé d'avis et décidé d'envoyer ses troupes contre nous ?»
s'étonna Dancret.
« Non, général !»
continua le jeune homme essoufflé.
« Il ne porte pas la bannière de la Galatie. »
« Mais quelle bannière, alors ? Ce ne sont tout de même pas les Sarrois !»«
Nous ne connaissons pas ces armes, général. Ce doit être des étrangers. »
Dancret fronça les sourcils.
« Sont-ils nombreux ?»«
Pas loin de 2000, je pense. »
Le général se redressa sur son cheval et appela un capitaine à ses côtés.
« Envoyez deux éclaireurs. Je veux savoir si cette armée nous est hostile. » J'ai bien peur qu'elle le soit, mais je veux en avoir le cœur net. Alors il faudra les arrêter avant qu'ils ne puissent nous prendre à revers. S'ils ne sont vraiment que 2000, nous devrions pouvoir les contenir, mais cela va encore réduire notre ligne de front. Soyez patients. Dès que l'armée de Mériande aura soulagé l'effort de nos troupes, vous vous préparerez à intercepter ces nouveaux intrus. »
Le capitaine acquiesça et partit donner ses ordres. Le soleil brillait encore haut dans le ciel. L'armée de Mériande, anciens soldats de Terre Brune et mercenaires, arriva enfin dans la bataille. Aussitôt, les magistèles durent arrêter leur offensive sur l'armée arcourtoise pour se défendre contre les Brunois. Les hommes de Dancret en profitèrent pour avancer de nouveau sur la colline et une formation de 3000 hommes se détacha pour venir se poster au nord. Les Touatan commençaient à s'essouffler. Ils se laissèrent déborder par la contre-attaque des Arcourtois. Les clans durent battre en retraite, regagnant le haut de la colline d'où ils auraient une meilleure défense. Alors un nouvel étendard apparut au nord de la plaine de Sablon. Les Harcourtois, aussi bien que les Brunois et les Touatanes, se demandèrent qui étaient ces soldats vêtus de rouge et de blanc. Mais les druides, eux, reconnurent aussitôt le symbole brodé sur leur bannière. C'était le symbole du Samil d'Anak. Après de longues heures de recherche, ils commencèrent à s'impatienter. La fatigue et la crainte d'être découverts les accablaient. Et Aléa se demanda si l'encyclopédie se trouvait vraiment dans cette pièce. « Peut-être l'avons-nous vue sans nous en rendre compte ?» suggéra Kathleen, épuisée. « Ou peut-être qu'elle est ailleurs, » répliqua Aléa. « Allons, » intervint Faith, qui était tout en haut d'une échelle. « Nous n'avons pas encore tout vérifié. Nous n'allons pas abandonner maintenant tout de même. » Le nain, lui, avait déclaré forfait depuis longtemps. Il était assis sur une pile de manuscrits reliés, la tête dans les mains. Il partageait son temps entre des soupirs et des bâillements, les yeux brillants de fatigue. Kathleen et Aléa se remirent au travail. Elles avaient toutes les deux beaucoup plus de mal que la barde à déchiffrer les lettres sur le dos des livres. En sus, la faible lumière de la lune ne les aidait pas beaucoup. Elles avaient découvert toutes sortes d'ouvrages, certains magnifiquement décorés, d'autres incomplets ou inachevés, d'autres encore qui n'étaient reliés que par une maigre ficelle. Mais aucun ne correspondait à ce qu'elles cherchaient. Il fallait souvent enlever une épaisse couche de poussière pour voir le titre gravé dans l'épaisseur du cuir, et parfois, il n'y avait rien d'inscrit sur la reliure. Il fallait alors ouvrir le livre et chercher une indication sur les premières pages.
« Si ça se trouve, »
intervint Mjoln en bâillant,
« votre maudit bouquin est sur un des pupitres.
» Aléa se retourna vers le nain. « C'est pas bête, ça, » dit-elle. « Tu n'as qu'à chercher. » Le nain grogna.
« J'aurais mieux fait, ça oui, de me taire. »
Il se leva laborieusement et avança en traînant les pieds vers les petites alcôves entre les tapisseries. Aléa le vit disparaître dans l'ombre et se remit au travail en souriant. Elle monta si haut sur une échelle qu'elle arriva à la hauteur de l'une des baies. Elle regarda à travers l'ouverture. Au loin, la mer était d'un bleu obscur, presque noir. Elle tourna la tête pour voir par l'autre fenêtre et vit alors la lumière d'une torche qui vacillait plus haut, dans la galerie qui entourait le cloître. Elle regarda de nouveau au dehors, du côté de la mer, et vit que les premiers rayons du soleil n'étaient pas loin.
« Le matin est proche, » murmura-t-elle. « Les moines vont se réveiller. »
Au même moment, un vacarme énorme retentit au centre de la pièce. Aléa sursauta et faillit perdre l'équilibre. Elle se rattrapa au barreau de l'échelle et pencha la tête pour voir ce qui s'était passé. Mjoln avait fait tomber un énorme livre au pied d'un pupitre.
« Aléa ?»
dit-il, perplexe, en levant les yeux vers la jeune fille.
« Je crois que j'ai trouvé ton maudit livre. »
Aléa se laissa glisser le long de l'échelle sans poser les pieds sur les barreaux. Elle arriva en bas en un instant et courut vers le nain, bientôt rejointe par Faith et Kathleen. L'encyclopédie d'Anali reposait au pied de Mjoln. La barde, stupéfaite, se baissa et passa la main sur le cuir de la couverture.
« C'est bien cela, » murmura-t-elle.
Mais au même moment, la porte sud du scriptorium s'ouvrit violemment. Ils se baissèrent tous aussitôt. La lumière d'une torche apparut à travers les tapisseries et sur le plafond.
« Je viens d'entendre du bruit par ici, mon père, je vous assure. »
La voix résonna sous la grande voûte de pierre. Sans perdre de temps, Aléa ramassa la lourde encyclopédie. Kathleen ouvrit son sac et le tendit à la jeune fille qui y glissa l'épais volume. Lentement, le dos courbé, ils se mirent à marcher tous les quatre vers la porte par laquelle ils étaient entrés. Ils entendirent derrière eux les bruits de pas des deux hommes qui fouillaient la pièce. Aléa ouvrit la porte et fit signe à ses amis de se précipiter par là. Au même moment, l'un des hommes s'écria.
« Là-bas, la porte du réfectoire vient de s'ouvrir !»
La jeune fille sauta de l'autre côté et referma derrière elle.
« Vite !» cria-t-elle en poussant Bjorn devant elle. « Ils arrivent !»
Ils montèrent 4 à 4 les marches qui menaient au réfectoire. La porte qu'ils venaient de passer s'ouvrit au moment où ils arrivaient dans la grande pièce. Kathleen se précipita vers un banc et le poussa vers l'entrée. D'un coup de pied, elle lui fit dévaler les escaliers. Elle eut tout juste le temps de voir le jeune étudiant en bas des marches, qui reçut le banc en pleine poitrine et alla s'écraser plus bas.
« Dehors !»
cria Aléa en tirant Kathleen par la taille. Ils coururent sans se retourner vers la galerie du cloître, traversèrent le jardin, pour aller droit vers le grand degré. Les cris des deux hommes se mirent à résonner dans le réfectoire et quelques torches s'allumèrent aux fenêtres des deux derniers étages de la merveille. Ils retournèrent vers la petite salle de garde qui donnait sur les remparts. Il n'y avait toujours personne. Aléa passa la première et courut le long de la coursive. À l'angle, elle vit que les deux soldats qu'ils avaient ligotés étaient toujours là, mais ils se débattaient, réveillés. Sans hésiter, la jeune fille leur asséna un nouveau coup sur la tête et se retourna vers ses amis pour leur faire signe d'avancer. Puis elle reprit sa course vers la tour. Avant d'ouvrir la porte, elle jeta un coup d'œil en bas du rempart et aperçut avec horreur 4 soldats qui découvraient la serrure forcée. Elle regarda plus haut, vers l'entrée de l'abbaye, et vit d'autres soldats qui sortaient en courant. La ville était déjà en alerte. Les moines avaient fait vite.
« On ne peut pas descendre par là !» s'écria-t-elle comme ses compagnons arrivaient.
« Mais il n'y a pas d'autre issue !»
s'exclama Mjoln, paniquée.
« Et des soldats ne vont pas tarder à arriver par le grand degré ?»
poursuivit Faith.
« Je sais, il y en a aussi qui sont en train de monter dans cette tour !»
La jeune fille regarda autour d'elle. Il n'y avait aucune échappatoire. Pas de trappe dans le sol de la coursive. Pas d'autre tour accessible. Elle se pencha par-dessus le mur du rempart, vers l'extérieur. La fortification donnait directement sur le rocher, au-dessus de la baie. Elle se retourna vers ses compagnons qui la regardaient d'un air paniqué. Elle joignit les mains devant sa bouche et inspira profondément.
« Bon, »
dit-elle. « Est-ce que vous me faites confiance ?» Mjoln fronça les sourcils.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?»
demanda-t-il d'une voix inquiète. Aléa hésita. Elle regarda de nouveau par-dessus le mur. Faith la prit par l'épaule.
« Ne me dis pas que tu veux qu'on saute !»
s'exclama la barde, incrédule. Aléa fit une grimace gênée.
« Je crois que c'est notre seule chance, » avoua-t-elle finalement.
« Bien sûr ! Tada ! On n'a qu'à s'envoler comme des petits oiseaux !»
La jeune fille se frotta les joues.
« Écoutez, je suis sûre que je peux retenir notre chute. Si on saute tous en même temps, je suis sûre que je peux...
« Mais ça va pas, non ?»
s'exclama Mjoln, qui commençait à prendre vraiment peur. Au même moment, la porte qui donnait sur la petite salle de garde du grand degré s'ouvrit, et des soldats apparurent. Aléa n'hésita pas un seul instant. Elle grimpa sur le mur du rempart et tendit la main vers ses amis.
« Montez ! Si vous croyez en moi, montez !»
Faith s'exécuta aussitôt. Mjoln la regarda. Médusée.
Vous êtes folle !
Kathleen hésita. Elle se retourna, vit les soldats qui couraient le long de la coursive et se décida d'un seul coup. Elle prit le nain par les hanches et le posa sur le parapet, puis elle grimpa derrière lui.
Non !
Cria Mjoln.
Je ne sauterai pas !
Faith l'attrapa par l'épaule et le plaqua contre elle.
Monsieur Abak, si on survit à ça, « je jure que je vous fais barde !»«
Je m'en fiche !»
s'exclama le nain qui tremblait de tout son corps.
« Maintenant !»
cria Aléa, et elle sauta la première dans le vide, entraînant Faith qu'elle tenait par la main. La barde se laissa tomber sans lâcher le nain, et Kathleen les imita en fermant les yeux. Le vide les engouffra d'un seul coup. Ce fut un moment de silence absolu. Comme un réveil brutal au milieu d'un cauchemar. La chute ne dura qu'un instant très court et Aléa eut tout juste le temps de refermer le Saïman autour d'eux. Le sol se rapprocha à une vitesse vertigineuse et elle crut qu'ils allaient s'écraser. Elle hurla, et soudain, le Saïman se mit à monter sous leurs pieds. Il gonfla autour d'eux, diminuant la force de leur chute jusqu'à la stopper complètement. Aléa, que la vitesse avait désorientée, parvint enfin à se ressaisir et reprit le contrôle du Saïman, qui les accompagna comme quatre plumes virevoltant dans les airs. Leurs pieds touchèrent lentement le sol, avec la délicatesse d'une troupe de danseurs. Quand Aléa prit conscience de ce qu'elle venait de faire, elle ne put retenir un rire nerveux. Elle regarda ses trois compagnons, le visage crispé, qui n'osaient pas ouvrir les yeux. Raides comme des planches, ils tenaient sur la pointe des pieds, sans même s'en rendre compte. En entendant le rire inattendu de la jeune fille, ils ouvrirent timidement les yeux.
« On est vivant ?»
balbutia Mjoln, incrédule. Il sentit la main de la barde qui serrait la sienne et comprit qu'ils étaient sains et saufs. Alors il tourna la tête vers Aléa et lui adressa un regard furieux. La jeune fille haussa les épaules. « Je recommencerai bien, moi !» Mjoln resta un long moment à la fixer d'un air méchant, puis soudain, il éclata de rire à son tour. Aléa poussa un soupir de soulagement. Ils riaient maintenant tous les quatre, comme si la chute les avait enivrés. « Et maintenant, que fait-on ? » demanda finalement Kathleen en regardant devant eux la baie inondée qui s'étendait à perte de vue. Galliad donna l'ordre d'attaquer dès qu'il vit qu'une partie des troupes arcourtoises se préparait à les intercepter.
« Il ne faut pas leur laisser le temps de prendre position »
hurla-t-il. Il leva Bantral au-dessus de sa tête, et de toutes ses forces, il cria.
« Al-Ragan, pour le Samil Danak !»
Aussitôt, comme un seul homme, les 1200 fantassins et archers se mirent à courir vers l'ennemi, acclamant à leur tour le nom d'Aléa, bientôt suivi par les cavaliers. Cette vague déchaînée parcourut la longue plaine qui la séparait des Harcourtois sans cesser de hurler. C'était une impressionnante marée humaine que rien ne semblait pouvoir arrêter. Quand ils furent à bonne distance, Erwan fit signe aux archers de se mettre en position. La ligne des fantassins se dégagea devant eux, révélant une longue colonne d'arcs dressée vers le ciel bleu de l'été. Les flèches s'envolèrent au-dessus de l'infanterie, qui continuait d'avancer, et retombèrent sur les premières lignes du détachement arcourtois. Des centaines de guerriers du Christ tombèrent en pleine course, transpercés de toutes parts. L'instant d'après, les fantassins du Samil Danak arrivèrent au contact de l'ennemi. Ce fut un choc terrible. Les guerriers d'Aldaman se jetèrent frénétiquement dans la bataille, moins expérimentés, mais tellement plus courageux. Il y eut autant de morts d'un côté que de l'autre. Fingin, resté en retrait, lançait de longs éclairs bleutés sur les chevaliers arcourtois. Les langues vives dansaient tout autour des armures et grillaient la chair à l'intérieur. Foudroyés, les cavaliers s'écroulaient, les uns après les autres. Erwan resta près du druide et le protégea des nombreux fantassins qui tentaient de l'assaillir pour que cessent ses attaques meurtrières. Le jeune magistel, assisté de Talin, repoussa un à un les soldats de la flamme, les accueillant à coups d'épée et de masses d'armes. Plus loin, en première ligne, Galliad traversa les rangées ennemies en faisant tournoyer Bantral au-dessus de sa tête. Chaque fois qu'il abattait l'épée, il touchait sa cible et terrassait ses victimes d'un seul coup de lame. Le métal s'enfonçait dans les torses, sur les flancs, tranchait les gorges, fendait les crânes. Au loin, Dankrai, stupéfait par ce nouveau sursaut de l'ennemi, finit par reconnaître le magistel qui guidait sa petite armée.
« C'est Aldaman !»
s'exclama-t-il, furieux. Il se tourna vers le capitaine qui attendait près de lui et lui ordonna de partir attaquer le magistel. Le capitaine Galover était un homme plutôt âgé, mais c'était peut-être l'un des plus vaillants chevaliers d'Harcourt. Il avait fait partie, jeune homme, des quelques combattants qui s'étaient illustrés aux côtés du comte Alroeg dans la guerre contre la Galatie, et peu de soldats en Harcourt maniaient l'épée aussi bien que lui. Pourtant, plutôt que de prendre le titre de général qu'on lui avait offert, il avait tenu à rester capitaine pour s'assurer qu'on ne l'empêcherait pas de prendre part au combat. C'était un vrai guerrier, et se battre n'était pas seulement ce qu'il faisait de mieux. C'était sa seule raison de vivre. Sans hésiter, il salua le général et partit au galop vers Aldaman, heureux presque de pouvoir affronter ce guerrier de légende, un digne adversaire. Son cheval se fraya avec peine un chemin parmi les fantassins. Il manqua écraser l'un de ses propres hommes, mais Galover ne regardait pas sous sa monture. Il avait les yeux rivés sur l'homme qu'il devait défaire. Galliad abattit encore sa lame sur un guerrier courtois qui tentait de s'approcher. Quand il releva les yeux, il vit le capitaine qui fonçait droit sur lui. Il évita de justesse la lance de Galover et perdit l'équilibre en s'inclinant un peu trop. Le magistel tomba de cheval, emporté par le poids de son armure de plate. Il s'écrasa violemment sur le sol, parmi les cadavres ensanglantés de ses ennemis, comme de ses propres soldats. Il sentit un liquide chaud qui coulait sur son front. Dans la chute, il s'était cogné le crâne à l'intérieur de son casque et se l'était sans doute ouvert. Le sang descendit sur son œil droit, troublant sa vue. Il pencha la tête, mais son champ de vision était des plus étroits, comme son casque appuyait sur le sol. Il ne pouvait voir que la confusion des armes qui se croisaient au-dessus de lui, des ombres qui venaient puis partaient, l'éclat éblouissant du soleil sur une lame. Galliad essaya de se relever, mais le poids de l'armure le clouait au sol. Il fit une nouvelle tentative, mais ne parvint qu'à se tordre le dos. Il secoua la tête et aperçut alors le visage de Galover au-dessus de lui. Le capitaine, le regard brillant, était sur le point d'abattre son épée. Galliad serra les dents et donna un violent coup de hanche pour rouler sur lui-même tout en balançant sa jambe sur la gauche afin de faucher le chevalier dans son élan. Un voile noir. Un bruit sourd. Le magistel se retourna face au sol et poussa de toutes ses forces sur ses bras pour se relever. Le sang battait à son front. Debout, il fit volte-face et vit que Galover était tombé, mais qu'il se remettait déjà sur ses pieds. Galliad fit un pas de côté et aperçut Bantral juste devant lui. Sans quitter le capitaine des yeux, il avança lentement vers son épée, prêt à esquiver si Galover ne lui laissait pas le temps de ramasser son arme. Le magistel se pencha. Le sang avait complètement fermé son œil et son casque l'empêchait de s'essuyer. Il eut du mal à ramasser Bantral tant sa vision était troublée. À cet instant, Galover bondit sur lui. Galliad le vit partir du coin de l'œil. Au dernier instant, il se laissa tomber sur le côté pour essayer de passer sous son adversaire. De la main droite, il parvint à saisir Bantral tout en amortissant sa chute. Le capitaine n'eut pas le temps d'esquiver. Surpris par la cascade de son adversaire, il s'empala sur l'épée de Galliad avec une grimace horrifiée. Le magistel se releva, dégagea son arme et se retourna pour retrouver son cheval. Il se pressa vers l'animal, arrêta un fantassin et lui demanda de l'aider à remonter. Une fois de nouveau en selle, il enleva son casque et put essuyer le sang qui avait coagulé sur son œil. Il put voir enfin correctement, et ce fut pour découvrir que la bataille autour de lui prenait un tour nouveau. Ici, l'issue du combat était encore imprévisible. Les morts s'accumulaient, mais les soldats de la flamme ne parvenaient pas à maîtriser les attaques des guerriers du Samil Danak. Mais Galliad savait que cela ne pourrait pas durer. Les fronts étaient bien trop disparates. Au sud, les Brunois, beaucoup plus nombreux, avaient réussi à repousser les magistels de Saïmina. Ils attaquaient maintenant les Tuatan, en haut de la colline. Au nord-ouest, les guerriers du Christ avaient repris le dessus et gravissaient progressivement la côte à travers les rangs affaiblis des hommes du Cid. Mais le plus étonnant était ce qui se passait à l'est. Une confusion étonnante régnait parmi les druides, qui commençaient à s'éparpiller. Galliad tira sur les rênes de son cheval pour le faire obliquer vers l'est et partit au galop afin d'essayer de comprendre. À la vitesse d'une flèche, il passa au cœur même de la bataille qui opposait ses hommes aux soldats de la flamme. Son cheval allait si vite que rien ne pouvait l'arrêter. Quand il fut un peu à l'écart, il se dressa sur sa selle et ce qu'il vit lui parut incroyable. Un homme, seul, vêtu de ce qui semblait être un habit religieux, se battait contre les druides, armé d'une seule épée. Galliad serra la mâchoire et continua d'avancer. Quand il fut assez près, il reconnut, incrédule, le visage dément de Samael. L'ancien druide tenait, dressé au-dessus de lui, l'épée de Nuadu. Celui qui se faisait appeler Natalien était parvenu à passer à travers l'armée de druides et attaquait maintenant les grands druides, complètement désorientés. Deux d'entre eux étaient déjà au sol, le corps littéralement tranché. Les deux autres semblaient épuisés. Ils se battaient depuis longtemps contre les Harcourtois et étaient sans doute au bout de leurs forces. En voyant leurs regards effarés, Galliad se demanda si le Saïman ne les avait pas quittés. Il les observa un court instant et les reconnut. Tiernan et Othélian. Le Magistel, le cœur soulevé par la rage, descendit de cheval et avança d'un pas lourd vers le renégat en hurlant son nom.
« Samael !»
L'ancien druide fit volte-face. Il aperçut Galliad qui venait vers lui et ouvrit un large sourire.
« Aldanan, le plus grand des magistels !»
Galliad, se préparant au pire, serra les poings sur le manche de son épée. Il inspira profondément et fonça sur Samael. Son cœur battait de plus en plus fort. Mais il ne flancherait pas. À cet instant, la mort de Félim revint à sa mémoire. Le prince des Érylim l'avait emporté sous ses yeux et il n'avait rien pu faire. C'était, à n'en pas douter, le pire souvenir de toute son existence. Voir mourir devant lui le druide qu'il avait juré de protéger au prix de sa propre vie. Et aujourd'hui, d'autres grands druides étaient morts sur le même champ de bataille. Le Magistel avait quitté Saïmina pour toujours, mais son sens du devoir, lui, était intact. Et il se devait de défendre les membres du Conseil, avec sa vie. Il ne laisserait pas une seconde fois un grand druide périr sous ses yeux, quelle que doive être l'issue de ce combat. Il allait se battre avec toute la force de son âme et de son cœur. Sans doute pensait-il que c'était là une manière de venger la mort de Félim. Ici. Maintenant. Galliad leva les yeux vers Samael et vit que celui-ci ouvrait la bouche. Il s'apprêtait à parler. À le narguer, sans doute. Il ne lui en laissa pas le temps. Le Magistel bondit tel un fauve sur le traître, tendant Bantral devant lui comme la proue d'un navire. L'épée étincela sous le soleil d'été. Samael esquiva au dernier instant et donna un coup de lame sur le côté. L'épée de Nuadu s'enflamma aussitôt et prit de la vitesse. Galliad, au bout de sa course, vit la lame s'approcher et se jeta sur le sol. L'épée ensorcelée siffla au-dessus de lui sans le toucher, mais une énergie invisible qui entourait la lame le heurta au flanc et l'envoya rouler loin derrière Samael. Le Magistel se releva, sonnait et fit face à son ennemi. L'épée de Nuadu était une arme terrible, et même si Samael n'avait pas l'agilité et la puissance de Galliad, le Manite faisait de lui un adversaire beaucoup plus dangereux. Aldaman, essoufflé, banda les muscles de ses bras pour tenir Bantral plus fermement. Au fond de lui, il commençait à douter. Mais il ne devait pas. S'il fallait mourir, il était prêt à le faire. Soudain, il sursauta. Il avait senti quelque chose dans son dos, comme un vent chaud qui soufflait derrière lui. Il regarda sur sa gauche et vit Othélian et Tiernan qui avaient fermé les yeux. Les deux grands druides l'entouraient de Saïman. Ils allaient le protéger. Galliad inspira. Il avait une chance. Il tendit les bras devant lui, pointant Bantral vers Samael, et sentit l'énergie des druides qui courait le long de son corps comme un long bouclier. Il pensa à Aléa. Il ne devait pas mourir. Elle avait encore besoin de lui. Elle était le Samil Danak. Il était son Magistel. L'assaut fut instantané. Mais cet instant parut éternel et le monde tout entier sembla s'arrêter. Samael, l'épée de Nuadu. L'ancien druide se jeta sur Galliad. La lame brilla de mille feux, semblant entraîner l'homme derrière elle. Galliad se redressa. Sa conscience n'avait jamais été aussi claire. Il aurait dû esquiver depuis longtemps, mais il resta immobile et droit devant la lame qui fonçait vers lui. Il vit qu'elle approchait. Elle n'était plus qu'une pointe, un rayon enflammé, et quand elle fut si près que les flammes mêmes l'eurent déjà dépassée, Galliad bondit vers le ciel, portée par le Saïman, plia les jambes sous son corps et abattit d'un geste puissant son épée vers Samael, en dessous de lui. Bantral siffla, pourfendant l'air comme une guillotine, et trancha la tête de l'ancien druide dans une gerbe de sang. Le magistel retomba sur ses pieds un peu plus loin, fit volte-face et découvrit le corps décapité de Samael derrière lui. Le renégat était mort. Galliad sentit ses épaules s'affaisser, mais c'était comme si sa vengeance lui avait enfin offert un peu de légèreté. À cet instant, le grand druide Othélian se précipita vers le cadavre de Samael et ramassa l'épée de Nuadu. Il se redressa, lança un regard à Galliad, hésita un instant, puis courut vers un cheval et partit au galop vers le nord en tenant le manite fermement dans sa main. Tiernan, les yeux hagards, adressa un salut au magistel et s'enfuit à son tour, abandonnant le champ de bataille pour retourner sans doute au palais de Saïmina. Galliad, ne sachant que penser des deux hommes, fit demi-tour et partit à son tour vers son cheval. Il monta sur le dos de l'animal et inspecta le cours des combats. Malheureusement, cette fois-ci, il n'y avait plus de doute. L'Harcourt allait l'emporter. L'armée de Dankray avait rejoint les Brunois en haut de la colline, où les derniers Touatanes se faisaient massacrer. Galliad sentit un frisson glacial parcourir son échine. La mort de Samael ne changerait rien. La bataille était perdue. Aussitôt, le magistel repartit vers le nord, où les guerriers du Samil Danak combattaient encore. Il chercha dans la confusion le visage de son fils, mais il ne voyait que ces hommes épuisés qui tombaient, levaient leurs armes dans un dernier effort, puis mouraient. Il contourna le champ de bataille par le nord et aperçut Fingin. Le druide était penché sur le sol, sur un corps immobile. Le cœur de Galliad sembla s'arrêter. Il eut le souffle coupé pendant de longues secondes. Était-il arrivé quelque chose à Erwan? Le magistel se remit au galop et sauta de son cheval dès qu'il fut derrière Fingin. Erwan était étendu par terre. Galliad trembla. En s'approchant, il vit toutefois que son fils avait les yeux ouverts et qu'il respirait avec peine. Erwan était vivant. Fingin vit le magistel derrière lui. « Votre fils est blessé !» s'écria le druide qui semblait épuisé lui aussi. « Mais je m'occupe de lui. Retournez au combat !»« Le combat est perdu !» souffla Aldaman en s'approchant. « Prenez Erwan avec vous sur un cheval et allez-vous-en. Je vais ordonner aux hommes de fuir ou de se rendre. Nous nous retrouverons ce soir, là où nous avons campé hier. » Fingin leva les yeux vers lui. « Battre en retraite ?» « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. Galliad acquiesça. Il adressa un dernier regard à son fils et remonta à cheval pour tenter de sauver la vie des derniers guerriers du Samil Danak. Mais la plupart étaient déjà morts, tel Talin, le fils du tailleur de pierre.
La digue est de l'autre côté du rocher, et il y a sûrement des gardes qui nous attendent là-bas. L'eau est trop profonde pour marcher. Emjol ne sait pas nager. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire,
dit Feys en descendant vers la baie la première.
Nous pourrions rester ici et attendre que la marée redescende, suggéra Caitlin. C'est trop risqué, répliqua Aléa. Les soldats du Mont-Tombe vont sûrement venir nous chercher.
On pourrait peut-être fabriquer un radeau, proposa Feys.
Mjoln poussa un long soupir.
Pourquoi faut-il toujours, ça oui, que nous devions fuir par la mer, Aléa ?
Dit-il en levant les yeux au ciel. La jeune fille lui adressa un sourire embarrassé.
J'ai bien peur que le radeau soit en effet la meilleure solution. Mais je devrais pouvoir me débrouiller pour qu'il avance assez vite, n'est-ce pas, Mjoln ?
Oui, oui,
répondit le nain.
Ça, oui, vous pouvez lui faire confiance.
Ils se mirent aussitôt à la recherche de bouts de bois.
La marée avait ramené sur le bord du rocher quelques planches qu'ils purent ramasser. Kathleen coupa les lanières de son sac pour accrocher les planches et les bouts de bois les uns aux autres, mais cela ne suffit pas et ils durent aussi utiliser les manches de leur chemise. Ils étaient fatigués, mais le temps pressait, et ils firent aussi vite qu'ils purent. Mjoln, qui était parti chercher d'autres planches plus haut sur le rocher, dans un bois surélevé, trouva finalement un petit bout de corde qui allait permettre d'achever l'assemblage.
« Ne tirez pas trop sur la corde !»
ordonna Kathleen.
« Il faut que le radeau soit bien plat si on veut qu'il flotte. »«
J'espère qu'on ne va pas s'enfoncer, » murmura Faith en veillant à ne pas être entendu par le nain.
« Je vais m'en assurer, » répliqua Aléa. « Allons-y !»
Bjoln fut bien sûr le dernier à monter sur l'embarcation. Il ferma les yeux et se réfugia au centre du radeau, enfonçant sa tête dans ses genoux. Aléa se mit à l'arrière. Elle chercha le contact du Saïman. La petite flamme brillait à l'intérieur de son front. Elle se saisit de cette énergie réconfortante. Elle attendit que le Saïman grossisse, puis elle le laissa glisser sous le radeau. Soudain, l'embarcation se mit à avancer. Faith, qui était restée debout, faillit perdre l'équilibre. Elle se rattrapa de justesse aux épaules de Kathleen et se mit à quatre pattes, comme elle. Bientôt, le radeau sembla voler au-dessus de l'eau. La mer était calme et Aléa n'eut aucune peine à maintenir la plateforme horizontale. Des gouttes d'eau s'envolaient chaque fois que l'avant de l'embarcation traversait une petite vague. Peu à peu, la mer se colorait autour d'eux, à mesure que le soleil montait derrière la ligne d'horizon. La nuit s'en allait doucement. Mjoln grogna pendant tout le trajet au milieu du radeau et ne s'arrêta que quand ils arrivèrent sains et saufs de l'autre côté de la baie. Le nain courut rapidement vers la plage, trop heureux de quitter les eaux et de retrouver la terre ferme. Là, il se laissa tomber sur le dos.
« Mjoln !» intervint Aléa en marchant vers lui. « On ne peut pas rester là. Allez, il va faire jour. On y va !»«
J'en peux plus !»
« Debout, monsieur Abak !»
Le nain se leva en râlant, puis ils se mirent en marche vers l'est, derrière Aléa. Soudain, Faith s'arrêta, le regard tourné vers le mont Tombe.
« Des soldats arrivent par la digue !»
s'exclama-t-elle en montrant du doigt des chevaux qui galopaient vers la côte. Ils s'arrêtèrent tous et découvrirent à leur tour les soldats.
« Vite, allons-nous cacher !»
s'écria le nain.
« Allons, Mjoln, un peu de courage !» rétorqua Faith.
Kathleen partit ramasser un bâton, pendant que Faith et Mjoln dégainaient leurs épées. Sans attendre, Aléa se mit à courir vers la digue en se saisissant de sa dague. Il fallait intercepter les soldats avant qu'ils ne puissent se déployer sur la plage. Les trois autres la suivirent. La jeune fille se posta au milieu de la digue. Les six cavaliers fonçaient droit sur elle. Elle leva sa dague devant elle, laissa le Saïman monter au bout de ses doigts, attendit que les soldats soient assez prêts, puis jeta l'arme de toutes ses forces. La dague traversa l'air en sifflant et alla se planter dans la gorge du premier cavalier, qui tomba à la renverse. Aussitôt, la jeune fille rassembla l'énergie dans la paume de ses mains, puis envoya des éclairs sur les autres chevaliers. Elle se souvenait des gestes de Fingin, quand elle l'avait aidé à repousser les soldats à la sortie du souterrain de Rhia. Les éclairs claquèrent dans l'air et projetèrent les premiers cavaliers au sol dans des nuages de fumée. Elle parvint à en toucher trois, et il n'en restait plus que deux, quand au dernier instant, elle baissa les bras pour se déporter sur le côté. Les chevaux passèrent si près d'elle qu'elle perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Les deux chevaliers ne s'arrêtèrent pas et foncèrent vers ses trois compagnons. Mjoln lança son épée vers le premier, qui était bien trop haut pour que le nain puisse l'attaquer depuis le sol. L'épée ricocha contre l'armure et retomba à terre sans blesser le soldat. L'autre chevalier abattit violemment sa masse d'armes sur Kathleen. L'actrice fit un bond de côté, passa sur le flanc du cheval et asséna un coup de bâton à son adversaire, lui faisant perdre l'équilibre. Le soldat tomba sur le sol. La cheminante ramassa l'épée de Mjoln et frappa de toutes ses forces sur une jambe du guerrier. La lame s'enfonça sous la genouillère et lui coupa la jambe. Le soldat s'écroula en hurlant de douleur. De l'autre côté, Faye s'esquivait les assauts répétés du dernier cavalier qui tournait autour d'elle. Aléa, sortie de l'eau, envoya un dernier éclair dans sa direction. Le cavalier s'effondra instantanément, sans vie. Aussitôt, la jeune fille courut vers l'un des chevaux, l'attrapa par les rênes et parvint à l'arrêter. Kathleen et Faye s'imitèrent. La Providence venait de leur offrir un moyen de locomotion. Quelques instants plus tard, les trois chevaux les emportaient au galop vers l'est. Mjoln, agrippé derrière la barde, lança un regard vers la plage, là où gisaient les corps ensanglantés des six soldats de la flamme. Ils galopèrent tout le jour, luttant contre le sommeil. Aléa, en tête, restait loin des routes. Les Harcourtois allaient sûrement les rechercher activement maintenant. Quand le soleil fut à son zénith, ils ne s'arrêtèrent même pas pour manger. Mais à la fin de l'après-midi, voyant que les chevaux n'en pouvaient plus, ils décidèrent enfin de se reposer. Le nain, fourbu et renfrogné, se laissa tomber du cheval et partit se coucher sous un arbre où il s'endormit aussitôt. Le comte Alroeg arriva à Philiden le lendemain de la terrible guerre de Sablon, escorté par l'élite des soldats de la flamme. Il passa d'abord sur le champ de bataille, plaine dévastée au-dessus de laquelle volaient déjà des nuées de charognards. Des hommes vêtus de noir passaient sur l'étendue de terre boueuse en puantie, avec des charrettes de bois, pour ramasser les milliers de cadavres qu'on enterrerait plus loin dans une fosse commune, à l'exception de quelques nobles, dont les corps seraient ramenés à Ria. Les dépouilles immaculées de sang noir s'entassaient comme des poupées de chiffon. Quand ils s'arrêtaient pour ramasser de nouveaux cadavres, les hommes qui tiraient les charrettes devaient chasser les vautours qui commençaient déjà leur morbide besogne. Le corps de Samael, lui, avait été emmené le premier. Il serait enterré le lendemain même, à Philiden, où le comte ordonna qu'on construise un monument qui commémorerait cette bataille et rendrait honneur à l'évêque natalien. Il ne restait plus un seul Touatan dans la grande ville. Femmes et enfants avaient été chassés, et l'on racontait qu'ils étaient partis se réfugier dans les montagnes. L'Harcourt et la Terre Brune avaient gagné la guerre. La nouvelle courait déjà dans les villes voisines, et bientôt dans le pays tout entier. Le soir, un grand repas fut organisé dans la caserne, à l'endroit même où les Touatan avaient installé leurs quartiers généraux quelques semaines plus tôt. Le symbole était fort. Et malgré les lourdes pertes, les Harcourtois jubilaient. Alroeg, Mériande et l'évêque Aeditus dînèrent à la même table, entourés de Dankrai et des grands officiers, ainsi que des nobles d'Harcourt et de Terre Brune qui avaient pris part au combat. « Cousin !» commença Mériande Mor assez fort pour que tout le monde entende. « Je vous dois tout. Jamais je n'oublierai ce moment. Vous avez rendu la Terre Brune à ses habitants et en signe de reconnaissance. » « Je vous fais serment d'allégeance. » Les convives applaudirent. « Je suis aussi heureux que vous, cher cousin, » répliqua Alroeg en levant son verre. « J'ai hâte de vous voir siéger de nouveau à Méricourt, maintenant que votre comté est débarrassé des barbares du Cid. Mais n'oubliez pas votre promesse. L'Église doit être accueillie sur vos terres comme elle l'a été sur les miennes. »
Mériande acquiesça.
« Aeditus !»
continua le comte d'Harcourt en se tournant vers son évêque.
« Je veux que vous envoyiez des prêtres, des moines et un évêque à Méricourt. Mon cousin bâtira la première église de Terre Brune et ils pourront alors commencer à convertir les Brunois. »«
Notre cœur l'est déjà !»
intervint un noble Brunois à la droite de Mériande Mor. Un serviteur arriva à la table pour resservir tout le monde en vin. La boisson coulait à flot et les hommes buvaient sans retenue.
« Demain !» reprit Alroeg. « Je veux que tout le monde assiste à l'enterrement de l'évêque natalien. Il est mort dignement sur le champ de bataille, là où un homme d'église ne devrait jamais avoir à défendre son pays. »
Au fond de lui, Alroeg n'était pas si attristé par la mort de natalien. L'évêque était des plus étranges, et sa haine secrète envers les druides, quoique bienvenue, cachait sans doute une bizarrerie dont le comte était bien heureux de se débarrasser. Et il savait qu'Aeditus lui-même ne pensait pas autrement. La guerre avait bien fait les choses.
« Maintenant que nos deux comtés sont réunis, » reprit-il en posant les mains sur la table, « cela va changer la donne politique de ce pays. Nous avons mis les druides en fuite.
Leur autorité en Gaelia n'a plus aucune valeur, et Saïmina va perdre de son aura auprès des habitants de l'île. À partir de ce jour, nous devons déclarer les druides indésirables sur nos terres respectives. L'entrée de la cour et de la terre brune doit leur être strictement interdite.
Mérian de Mort manifesta son accord. De toute façon, il n'était pas en position d'agir autrement. Alroeg l'avait sauvé. Sans lui, et surtout sans l'évêque natalien, il serait mort sans doute pendant la bataille de Ténian, achevé sans pitié par les barbares du Cid. Mais maintenant, les Tuatan n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Ceux qui s'étaient installés impunément dans quelques petits villages de la Terre Brune commençaient déjà à être expulsés quand ils n'étaient pas exécutés sur place.
Mais cela n'est que le début, cher cousin. Il ne faut pas se précipiter, certes, mais nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Je veux rencontrer la reine de Galassie, voir ce qu'elle a dans le ventre. Elle a eu tort de ne pas participer à cette bataille. C'était son unique chance de nous battre. Maintenant que les druides sont affaiblis, elle est plus vulnérable que jamais. D'abord, nous écraserons sans peine le comté de Sar, dont l'armée est la plus faible de l'île. Nous posséderons alors 3 des 5 territoires de la Gaelia et pourrons imposer notre loi.
Tout le monde se tut dans la salle. Le comte parlait de plus en plus fort, emporté par son ambition.
Alroeg, intervint Aeditus. Nous pourrons alors vous nommer roi à la place de la reine. La suprématie de la Galassie n'aura plus raison d'être. Dieu a choisi l'Harcourt, et l'Harcourt régnera.
Les convives levèrent leurs verres de nouveau.
Au futur roi,
proposa Aeditus.
Au roi,
répondirent-ils en trinquant. Dehors, les hommes de l'Harcourt continuaient de ramasser les cadavres. Pendant les 2 jours qui suivirent, Aléa et ses compagnons galopèrent vers le sud. Ils dépassèrent la chaîne des montagnes de Gordraka, en restant toujours loin des routes et des villages pour ne pas être repérés. Aléa envoyait régulièrement le Saïman autour d'elle, comme un éclaireur invisible. Elle cherchait la trace de Galiad, Fingin et Erwan. Peut-être la guerre était-elle finie. Alors ils se croiseraient sûrement. Leur clandestinité les empêchait d'avoir des nouvelles du conflit, et l'inquiétude les gagna chaque jour un peu plus. Galiad était-il parvenu à monter une armée? Avait-il porté secours aux druides et aux Tuatan? Rien ne leur permettait de le savoir, et ils se pressèrent de galoper jusqu'à la frontière de la Galassie afin de rejoindre au plus vite une auberge où ils espéraient obtenir enfin des nouvelles. Mais au soir du 2e jour, ils furent interrompus dans leur voyage par la plus terrible des embuscades. Le soleil venait de disparaître derrière les montagnes. La nuit s'étendait sur la Gaelia, comme un linceul sur celui qu'on enterre. Ils étaient au milieu d'une grande prairie bordée d'arbres et de collines. Et alors qu'ils avançaient vers le sud, les chevaux, soudain, refusèrent d'avancer et se mirent à trépigner sur place. Aléa se redressa et regarda alentour. Un vent léger caressait la plaine. S'appuyant sur le pommeau de sa selle, elle essaya de se hisser plus haut. Et enfin, elle les vit. Des centaines, des milliers de regards qui sortirent en même temps des bois, au sud et à l'est. Une armée de regards qui avançait lentement, sortait de l'ombre.
« Des Khorghouns ?»
murmura Mjoln d'une voix tremblante. Aléa se laissa retomber sur sa selle. Elle avait reconnu, elle aussi, la peau verte et brune de ces horribles créatures, leurs petits yeux rouges, leurs os saillants, leurs démarches disloquées.
Nous sommes 4, ils sont des milliers,
continua Mjoln en se demandant s'il n'était pas en train de faire un cauchemar. Mais ils étaient bien là, au bout de ce pré, et ils progressaient, balançant leurs armes devant eux, marchant vers Aléa comme un troupeau de bêtes.
« Nous sommes perdus !»
conclut le nain en laissant tomber ses bras le long de son corps. « Aléa, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose, mais si c'est le cas, fais-le vite !» chuchota Face, les yeux rivés sur l'horizon. L'angoisse étouffait sa voix.
« Contre 20 ou 30 d'entre eux, je pourrais tenter quelque chose, mais contre 1000 ?»
murmura Aléa, impuissante.
« On devrait peut-être essayer de fuir, tout simplement. »
suggéra Caitlin. Les Gorgounes continuaient d'avancer.
« Je ne vois pas d'autre solution, » répliqua Face.
« Allons-y !» s'exclama Aléa en tirant sur les brides de son cheval. Ainsi, ils firent demi-tour et partirent au galop vers le nord. Les chevaux filèrent plus vite que jamais, trop heureux sans doute de s'éloigner de cette armée obscure, mais après quelques foulées, les animaux s'arrêtèrent de nouveau. Aléa regarda droit devant. Les Gorgounes les avaient-ils encerclés? Son cœur battait à tout rompre. La peur montait dans ses entrailles et elle s'imaginait que ses trois compagnons devaient sentir la même terreur. Cette fois-ci, rien ne pourrait les sauver. Soudain, elle distingua les ombres qui arrivaient du nord. Ces silhouettes qui avaient de nouveau arrêté les chevaux. Elle se demanda si la chose était possible. Les mains tremblantes, elle se mit debout sur ses étriers pour s'en assurer. Elle découvrit alors une nouvelle rangée d'yeux brillants, mais cela n'était pas rouge. Aléa avança la tête et plissa les yeux pour mieux voir. Non, elle ne rêvait pas. Il y avait de ce côté-ci de la prairie une nouvelle armée, certes, mais pas de Gorgounes. Un frisson lui parcourut l'échine. La jeune fille se retourna. Derrière eux, les serviteurs de Maol Morda continuaient d'avancer et avaient même accéléré le rythme.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
pesta Face en voyant la rangée de pupilles fluorescentes qui brillaient dans la nuit. « Ce sont des loups, Face, » répondit Aléa calmement. « Des loups. » La barde écarquilla les yeux.
« Des loups ? Tu crois que... »
« Imala, » confirma la jeune fille en se laissant retomber sur sa selle, les yeux brillants. « Ce ne peut être qu'Imala. » Les loups continuaient à sortir des bois devant eux. Ils étaient aussi nombreux que les Gorgounes, peut-être même davantage. Les chevaux étaient terrifiés. Aléa avait du mal à retenir le sien.
« Il faut qu'on s'écarte de là au plus vite !» annonça la jeune fille en tendant un doigt en direction de l'ouest. « Nous ne pouvons rester au milieu, les chevaux vont devenir fous !»
Elle n'attendit pas la réponse de ses amis et se mit au galop, tête baissée. Les deux autres chevaux partirent aussitôt. Au nord et au sud, les deux armées se resserraient sur eux.
« Imala, j'espère que c'est toi. »
Les Gorgounes s'étaient mises à courir maintenant. Contrairement aux loups qui avançaient toujours vers le centre de la prairie, ils obliquaient vers l'ouest, à la poursuite d'Aléa et de ses compagnons. Alors d'un seul élan furibond, les loups passèrent à l'attaque. Ce fut un vacarme gigantesque, plus assourdissant encore que la charge d'une armée de soldats. Aléa et ses compagnons, pris de panique, se jetèrent sur le sol et coururent vers les bois, abandonnant leurs chevaux qui refusaient d'obéir. Après quelques foulées, n'y tenant plus, la jeune fille fit volte-face pour regarder. Et ce qu'elle vit était plus étonnant que tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors. Les loups, qui avaient traversé la prairie à une vitesse étonnante, se jetaient sur les Gorgounes comme de véritables chiens de guerre. Les créatures difformes se défendaient tant bien que mal, balançant leurs épées et leurs haches autour d'eux pour tenter de repousser cette marée dévastatrice. Mais les loups étaient plus rapides et plantaient leurs crocs dans les gorges verdâtres des Gorgounes terrorisées, déchirant les chairs à la force de leurs larges mâchoires. La jeune fille, stupéfaite, regarda alors vers le nord. Des loups continuaient d'arriver, plus nombreux encore. C'était comme si le sol tout entier était couvert, à perte de vue, de ces fourrures fières qui couraient au combat. La meute gigantesque barrait à présent la route aux Gorgounes, qui ne pouvaient que reculer vers l'est, fuyant devant les bêtes féroces. Aléa et ses compagnons, spectateurs impuissants, restèrent bouche bée au milieu des bois devant cette scène incroyable. Les hurlements des loups couvraient à peine ceux des Gorgounes. Le sang rouge des animaux se mêlait à celui des créatures de Maol Morda. Les cadavres se superposaient. Et la mort gagnait du terrain, d'un côté comme de l'autre. La jeune fille se mordit les lèvres. Les loups mouraient pour elle. Elle essaya de distinguer Imala dans cette confusion immense, mais elle ne pouvait bien sûr voir aucun animal clairement dans l'obscurité de la nuit et le chaos des combats.
« Nous devons faire quelque chose !» s'écria-t-elle soudain, ne supportant plus ce terrible spectacle. « Nous ne pouvons pas laisser mourir tous ces loups !»
Mais ses compagnons étaient paralysés.
Dans une rage folle, les yeux en feu, elle se précipita alors parmi les bêtes sous le regard stupéfait des trois autres. Les loups s'écartèrent sur son passage, puis semblèrent former un grand cercle autour d'elle, comme pour la protéger. Aléa courait vers l'est en poussant un hurlement qui ressemblait à celui des bêtes autour d'elle. Le bruit l'assourdissait, la nuit l'étouffait, la vitesse l'enivrait. Et à cet instant, elle se sentit louve, animale. Arrivée au milieu de la prairie, elle se laissa tomber à genoux. Lentement, elle tendit les bras vers le ciel et accueillit la force ardente du Saïman. L'énergie se mit à bouillir au fond d'elle. Son corps n'était plus qu'un volcan, prêt à exploser. Les bras dressés, elle laissa encore quelques instants l'énergie brûler et grandir, jusqu'à ce que son corps lui-même ne puisse plus la supporter. Et soudain, elle ouvrit les mains et expulsa d'un seul coup le feu qui l'embrasait. Les flammes rouges s'élevèrent dans le ciel, diffusant leur lumière sur la prairie tout entière, puis elles se concentrèrent en boules énormes qui retombèrent à l'est de cette arène morbide, comme une pluie de météorites sur l'armée des Gorgones. Le sol se mit à trembler sous les explosions successives qui détonnèrent au milieu des monstres. Des dizaines de corps déchiquetés furent projetés dans les airs autour des colonnes de feu et de poussière. Ils moururent par centaines sous la verse de ces gigantesques boules de feu. Écrasés, broyés, brûlés vifs. Des gorgones couraient en tous sens, le corps enflammé, puis tombaient, étouffés, calcinés. Mais les loups continuèrent leur assaut, agrippant les chevilles des fuyards, déchirant les chairs glauques de leurs mâchoires puissantes, quand, soudain, une brèche se forma au milieu des gorgones. Aléa, épuisée par son attaque, se releva lentement. Les loups n'étaient déjà plus autour d'elle, comme ils continuaient de repousser l'ennemi vers les bois. Elle vit alors le vide qui s'était créé au milieu du champ de bataille. Les gorgones comme les loups semblaient s'écarter autour d'un mur invisible. Au centre, elle aperçut une silhouette sombre et verticale. Elle était drapée dans une longue cape noire, la tête enveloppée d'une épaisse capuche, et on ne voyait pas un seul bout de sa peau. Aléa vit alors les nuées rouges, presque invisibles, qui dansaient autour de lui. Le Saïman. L'homme était drapé de Saïman. Un druide? Il ne portait pourtant pas la robe blanche, et sa démarche n'était pas celle d'un homme de Saïmina. Se pouvait-il que ce fût l'un des deux renégats? Ce n'était pas Samael. Et elle en était sûre, ce n'était pas Maol Morda non plus. Ce ne pouvait pas être lui. Elle aurait senti sa présence, comme dans le monde de Jar. Non. Mais alors qui? L'homme qui avançait vers elle semblait n'avoir aucune présence, aucune âme. Elle essaya de sentir son esprit, de sentir battre son cœur, mais elle ne trouva rien, juste cette ombre lente et sûre, cette forme obscure qui avançait sur elle. C'était comme s'il était déjà mort. Aléa frissonna. La bataille entre les gorgones et les loups continuait tout autour, mais les animaux et leurs ennemis s'étaient écartés et semblaient ne plus les voir. Comme si deux mondes s'étaient soudain séparés. Tout à coup, Aléa entendit des cris derrière elle. Mais elle ne pouvait pas se retourner. L'homme continuait d'avancer, et il n'était plus très loin. Elle se concentra pour essayer d'entendre ce qui se passait dans son dos, sans quitter l'étrange druide du regard. Soudain, incrédule, elle reconnut les voix de Galiad et Fingin. La Moïra les avait guidés jusque-là, entre la mer et les montagnes, comme elle l'avait espéré. Mais une chose lui glaça le sang. Elle n'entendait pas la voix d'Erwan. Elle serra les dents dans une grimace crispée. L'homme devant elle n'était plus qu'à quelques mètres. Elle aurait voulu se retourner pour voir ses amis, mais elle ne pouvait tourner le dos à cet ennemi menaçant. À cet instant, elle entendit des pas. Elle recula lentement. L'homme devant elle s'immobilisa un court instant. Elle recula de plus en plus vite, manquant perdre l'équilibre. Et enfin, elle vit Galiad apparaître à sa droite, suivi de Fingin, Faith et Caitlin.
« Où est Erwan ?
demanda-t-elle immédiatement d'une voix pleine d'angoisse, les yeux toujours fixés sur la silhouette menaçante qui approchait.
« Il est là !» la rassura Galliad aussitôt. « Il est resté dans la forêt avec Mjoln. Il est blessé, mais rien de grave. »
La jeune fille poussa un soupir de soulagement. Mais le personnage caché sous cette cape noire continuait d'avancer.
« Qui est-ce ? »
demanda Caitlin, espérant que quelqu'un avait une réponse. Mais personne n'en avait.
« Il a le Saïman, » dit seulement Aléa.
Galliad dégaina Bantral. Fingin s'approcha de la jeune fille. Au loin, les loups semblaient être parvenus à repousser complètement les gorgones. Certains commençaient à se disperser dans les bois. La prairie avait presque déjà retrouvé son calme nocturne, mais des centaines de cadavres jonchaient le sol. La silhouette noire s'approchait d'eux d'un pas aussi majestueux que terrifiant.
« Qui êtes-vous ? »
lança Galliad en avançant vers lui. L'homme s'arrêta. Il sembla hésiter. Sa longue cape noire tremblait sous le vent de la nuit.
« À présent, on m'appelle Dermot Kahal. »
Galliad reconnut le sceau d'Aldis autour de son cou. C'était donc lui qui avait guidé les Gorgones jusqu'ici.
« Et que voulez-vous ? »
insista le Magistel en fronçant les sourcils. Il lui sembla qu'il connaissait cette voix. Elle avait quelque chose d'étrange, comme si elle était trop grave, trop rauque, mais il était sûr qu'il l'avait déjà entendue.
« Je suis venu chercher Aléa. »
Tous comprirent quel sens il donnait à ce verbe. « Qui est-il ? » se demanda la jeune fille. « Quel est cet ennemi que je ne connais pas ? Il y a quelque chose. » Lentement, il sortit de sous sa cape un grand bâton de chêne noir. Galliad se mit en garde. Faith et Caitlin sortirent leurs armes à leur tour. Il a les gestes d'un druide et la démarche d'un mort. Le Magistel se déplaça lentement vers la droite et d'un signe de la main fit comprendre aux quatre autres de former un demi-cercle autour de Dermot Kahal. Le Saïman brûle autour de lui de plus en plus fort. Sans avancer, le mort-vivant leva le bras au-dessus de sa tête et lentement tira sa capuche en arrière. Les cinq compagnons découvrirent avec horreur le visage déchiqueté du mort-vivant. Il ne restait que quelques bouts de chair rouge sur le crâne brûlé de Dermot Kahal. Ses globes oculaires semblaient vides. Mais c'était un noir absolu, surnaturel. Le Saïman ne peut être aussi fort. Il y a autre chose. Soudain, Galliad se précipita sur leur adversaire. Aussitôt, Faith et Caitlin l'imitèrent, de l'autre côté. Lahriman, je reconnais cette autre énergie. C'était celle des Erilim. Pourtant, il n'est pas l'un d'eux. Dermot Kahal se baissa, attendit le dernier instant, puis fit un pas en arrière pour éviter l'assaut de Galliad. Il donna un violent coup de bâton dans le ventre du Magistel, qui fut projeté en arrière, puis tourna sur lui-même, la jambe droite tendue, en décalant son bras sur la gauche dans un grand mouvement circulaire pour faucher les deux femmes qui n'eurent pas le temps de l'éviter. Caitlin et Faith tombèrent lourdement côte à côte. « Il se bat mieux qu'un druide. Je dois faire quelque chose. Mais quelle attaque pourrait l'atteindre ?» Aléa, regroupant son énergie, réagit aussitôt en envoyant un éclair sur le mort-vivant. Mais le serpent de feu s'arrêta juste devant Dermot Kahal, protégé par le bouclier de Saïman. « Je ne peux pas le battre. Pas comme ça. » Galliad, Faith et Caitlin se relevèrent, le souffle coupé. Eux non plus ne peuvent rien, je dois le leur dire. Fingin fit quelques pas de côté pour tenter de passer derrière leur ennemi, mais celui-ci recula, empêchant ses assaillants de l'encercler. Galliad tenta une nouvelle attaque. Bantral s'abattit violemment à côté du mort-vivant.
« Galliad, vous ne pouvez pas l'atteindre, non !»
Dermot Kahal, qui s'était penché en arrière pour éviter le coup, tendit le bras vers le Magistel. Galliad reçut un éclair en plein visage et tomba à la renverse en hurlant de douleur. Faith, horrifiée, se précipita aussitôt à son tour. Elle leva son épée au-dessus d'elle et bondit sur le mort-vivant. Dermot Kahal ne se retourna même pas. Il y eut un éclair blanc,
éblouissant. Un seul petit instant, un seul geste. Il tendit son bâton derrière lui et soudain, celui-ci se transforma en une longue lame de métal. Faïs n'eut pas le temps de dévier sa course. Elle poussa un cri d'horreur quand elle comprit ce qui l'attendait et s'empala d'un seul coup sur la lance étincelante. Aléa poussa un cri strident. Son hurlement fendit l'air. Sembla stopper la nuit. Puis le corps de la barde glissa mollement le long de la grande lame, laissant sur le métal brillant une traînée écarlate. Le visage figé dans une dernière grimace, les bras ballants, Faith s'écroula par terre, lentement, lourdement. Et le sang se répandit autour d'elle, autour de son corps immobile. Galliad, reprenant ses esprits, se releva en titubant et découvrit avec terreur le corps de Faith, étendu au pied de son bourreau, vidé de son dernier souffle de vie. Le magistel se mit à hurler à son tour. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Son corps tout entier se mit à trembler. Ses muscles se crispèrent, ses veines se gonflèrent de sang, et sans réfléchir, le cœur brisé, l'âme blessée, il bondit sur le mort-vivant en saisissant Bantral des deux mains. Aléa se précipita en avant pour s'interposer. Elle voyait le temps se déployer, immuable, pour glisser vers un avenir terrible qu'elle ne pourrait éviter. Encore une fois, Dermotkal fut le plus rapide. Ses mouvements n'avaient rien de naturel. Il était porté par la magie qui l'enrobait. Ses bras semblaient flotter, transpercer l'air. Sous le regard effaré d'Aléa, le magistel reçut la lame du mort-vivant en pleine gorge. L'acier s'enfonça sous la peau de son cou, glissant jusqu'à la nuque à travers la chair ouverte dans un mouvement qui semblait ne jamais vouloir finir. Le magistel s'écroula sur le sol. Sa tête roula derrière lui et ses joues étaient couvertes de larmes. Aléa, anéantie, tomba à genoux à côté de Galliad. Elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait devant elle. Tout ce sang, Faith, et maintenant le corps du magistel. Si bon. Galliad. Les images revenaient une à une. La cour de Saïmina. Félim m'a demandé de vous enseigner le maniement de l'épée. Cette voix. La forêt. D'accord, Aléa, je te tutoie, mais plus de promenades nocturnes surprises, entendu? Le souterrain de Rhia. Je ne pars pas sans toi. J'ai perdu Félim, je ne te perdrai pas. Cette voix disparut pour toujours. Aléa sentit ses yeux s'embuer de larmes. Les mains tremblantes, les cheveux collés sur ses joues, elle leva les yeux vers Dermotkal, immobile, à quelques pas de là. Il la dévisageait. C'était elle qu'il voulait. Fingin et Caitlin, en retrait, étaient pétrifiés. Ni l'un ni l'autre n'osaient bouger maintenant. Ils regardaient Aléa, incrédule, cherchant sur son visage un répit, un espoir. Un dernier asile dans la folie qui avait gagné leur âme paralysée. La jeune fille, alors, se leva lentement. Elle se redressa face au mort-vivant. « C'est moi que tu veux. » Dermotkal fit un pas en arrière, ramenant son bâton le long de son corps. « Si c'est ma vie que tu veux, prends-la, mais je ne partirai pas sans toi. » Aléa ferma les yeux et laissa le Saïman quitter son corps. L'énergie bleue se glissa devant elle et se mêla à celle du mort-vivant. « Tu m'entends, n'est-ce pas? Mais tu ne veux pas me parler. Ma voix te ferait-elle peur ?» Dermotkal leva lentement son bâton derrière sa nuque. « Regarde, je suis désarmée. Si tu veux, tu peux me prendre, simplement. » Le bâton se mit à briller comme il changeait de matière, alors que l'énergie d'Aléa, elle, avait pénétré le corps tout entier de Dermotkal. Je vois maintenant. Je vois ton âme, druide. Le bois se fit acier. Je vois ton âme, mais elle est morte, druide. Tu es mort. Ce n'est pas toi ici. Ce n'est que ton cadavre. La lame de Dermotkal s'inclina. effleurée par la lumière discrète de la lune.
Vois ce que Maol Morda a fait de toi. Regarde-toi comme je te regarde. Regarde qui tu es.
Je vois son regard au-dessus de toi.
Il a fait de toi un esclave. Tu as tué pour lui.
La lame s'abattit lentement vers Aléa.
Regarde l'homme à tes pieds, l'homme que tu viens de tuer.
Puis elle accéléra.
C'est Galiad, Galiad Aldaman.
Elle siffla dans l'air au-dessus d'Aléa.
Ton magistel.
Elle s'enfonça.
Je t'ai reconnu, Félim, et je ne partirai pas sans toi.
Il y eut un claquement dans l'air, une ombre foudroyante. Aléa s'écroula sur le sol. La lame avait brisé son épaule, déchiré sa chair. En tombant, elle leva les yeux vers Dermotkal. Dans un éclair éblouissant, la tête du mort-vivant avait explosé au moment précis où il avait abattu son arme. Le corps difforme de l'ancien druide sombra lentement en arrière, décapité. Aléa glissa sur l'herbe et sa vue se brouilla. La dernière chose qu'elle vit, ce furent les bras tendus de Fingin, son regard terrifié. Et le Saïman qui s'échappait encore de ses doigts tremblants. Quand Aléa reprit connaissance, elle découvrit au-dessus d'elle les visages de Fingin, de Caitlin et de Mjoln. Des murs et un toit autour d'eux. Elle tourna la tête et vit Erwan. Il était allongé sur un lit, à côté du sien. Il lui souriait.
« Où sommes-nous ? »
murmura-t-elle, la gorge sèche.
« Chut !»
répondit Fingin en posant sa main sur le front d'Aléa.
« Il faut encore que tu te reposes. Nous sommes dans une petite auberge de la galaxie, loin de tout. Rendors-toi. »
Alors Aléa se souvint, et les larmes montèrent aussitôt à ses yeux. Galiad et Faith n'étaient plus. Ils avaient été tués par Dermotkal. Et Dermotkal. Elle ne parvint pas à poursuivre le fil de ses pensées. Le souvenir était trop douloureux. Elle aurait voulu se persuader que ce n'était pas possible, que ce n'était pas Félim. Et ce n'était pas Félim. Ce n'était plus Félim. Il fallait qu'elle se souvienne. Ce n'était qu'un cadavre manipulé par Maol Morda. Cela aurait pu être n'importe quel cadavre. N'importe quel cadavre.
L'encyclopédie ?
Murmura-t-elle soudain en essayant de se redresser. Fingin posa un doigt sur ses lèvres.
Calme-toi, Aléa. L'encyclopédie est bien là. Tu pourras la voir dès que tu iras mieux.
La jeune fille luttait. Ses yeux se fermaient tout seuls, mais elle voulait savoir.
« Mais, Fingin, les prophéties, il y a des réponses ?»
Le druide lui caressa le front en souriant.
« Oui, Aléa, il y a des réponses. Tu verras. »
Et elle perdit de nouveau connaissance.
« Je suis dans le monde de Jar. Je sens le vide autour de moi. Je fais le vide autour de moi. Je ne veux plus rien voir, plus rien sentir. Je voudrais être morte. Mais je ne peux pas. Erwan, je dois rester pour lui. Félim, mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait, mon bon druide? Oh, venez, venez ici, je vous en supplie. Montrez-moi un instant votre doux visage, vos yeux pleins de vie.
Mais il ne vient pas.
Maol Morda, j'irai vers toi. Cette fois-ci, il n'y aura personne entre nous. Plus de bouclier. Rien que toi et moi. Tu m'entends, Maol Morda? Je viens vers toi.
Ce silence continue. Comme si le monde de Jar s'était arrêté.
Ou comme si personne d'autre que moi n'était là.
Pourtant, je sens ta présence. Je te sens près de moi. Il faut que j'avance, que je défasse le vide autour de moi. Si je me perds dans Jar, je me perds partout. Je dois lutter pour Erwan et pour toi. Imala.